Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Dis-moi, jeune Samaritain, puis-je être utile à quelque chose?
Putain, la galère.
Non, non, ne te soucie pas pour ma galère, quelque chose me dit qu'elle ne va pas en Palestine. Et que c'est le grand architecte de l'univers lui-même qui t'a placé sur ma route.
De penseurs du siècle des Lumières dont l'œuvre philosophique tient une place aussi considérable que celle de David Hume dans l'histoire des idées européennes. Et dans cette œuvre, nul écrit qui n'égale les dialogues sur la religion naturelle, à la fois chef-d'œuvre stylistique et point d'aboutissement de l'entreprise critique de son auteur. C'est Clément Rosset qui le dit, et Clément Rosset a toujours raison. Des chefs-d'œuvre stylistiques sont produits chaque jour dans l'équipe des Nouveaux Chemins grâce à Antoine Ravon, Marianne Chassor, Lucie Tardy et Colomba Grossi, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Théo Gomard à la prise de son, et celle que vous retrouverez comme tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Il y a un siècle paraissaient 3 essais sur l'esprit du capitalisme, des essais du philosophe allemand Max Scheler qui paraissent à nouveau aux éditions Cécile Defoux.
Rendez-vous à 10h51. Dernier temps de notre série d'émissions consacrée au philosophe des Lumières écossaises, le sceptique modéré qui préfère les solutions aux apories, qui doute de la raison mais pas du sentiment, qui enquête sur la nature humaine comme d'autres découvrent de nouveaux continents et qui met un point d'honneur à s'adresser tant aux plus doctes qu'aux autres, ce qu'il appelle la compagnie. Dans les salons français qu'il fréquentait beaucoup, on le surnommait le bon gros David. Nous l'appellerons par son nom, David Hume. Lundi, Didier Deleule vous adressait le portrait du philosophe écossais en vous expliquant les raisons que nous avons tous de douter que demain, le soleil se lèvera. Mardi, Michel Malherbe vous a proposé sa lecture des essais sur l'art et le goût, exercice raffiné s'il en est, qui se lie avec gourmandise et délectation. Hier, le mouvement de grève, très suivi à Radio France, nous a conduit à reporter à plus tard, j'espère, l'émission prévue avec Éléonore Lejalais sur l'identité personnelle, les passions et les conventions chez Hume. Et aujourd'hui donc, pour terminer cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir le philosophe Jean-Pierre Grimard, doctorant à l'Université de Franche-Comté et enseignant à l'école internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vient vous donner envie de lire les dialogues sur la religion naturelle de Hume, texte qu'il avait renoncé à publier de son vivant pour ne pas susciter davantage les foudres de l'Église. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bonjour à vous Jean-Pierre Grimard.
Bonjour.
Want that old time religion? I want that old time religion, for it's good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. I know it's good enough for me. Give me that old. I just want that old. Do you? You want that old time? Don't you know it's good enough for me? Yeah, yeah.
Passant, comme à l'ordinaire, une partie de la saison d'été avec Cléante, j'assistais dans la bibliothèque de celui-ci aux conversations qu'il eut avec Philon et Déméa. Conversations dont je vous donnais récemment un insuffisant compte-rendu. Votre curiosité, me dites-vous alors, fut excitée à un tel point qu'il me faut de toute nécessité exposer leur raisonnement d'une façon plus exacte et plus détaillée, et développer les divers systèmes qu'ils proposèrent touchant à un sujet aussi délicat que celui de la religion naturelle. En raison de mon jeune âge, je restais simple auditeur de leurs disputes. Et la curiosité naturelle à la première saison de la vie a si profondément gravé dans ma mémoire la chaîne complète et la connexion de leurs arguments qu'aucune partie importante, je l'espère, n'en sera omise ou confondue dans la relation que je vais vous en faire.
Contrairement à ce que Pamphile écrit à Hermippe au début de ces dialogues, Jean-Pierre Grima, nous allons essayer de ne pas rester simple auditeur de leurs disputes, mais d'en ressaisir les enjeux. Peut-on dire, Pamphile vient de le dire, que ce dialogue porte sur ce qu'est la religion naturelle, que c'est un dialogue daté parce qu'il porte sur un sujet, disons, de la vieille religion, comme le dit la chanson de Rosetta Sarpe qu'on vient d'entendre?
Daté, non, je ne crois pas. Je pense qu'il est d'une actualité pertinente au sens où la question et l'argument principal, l'argument du dessein, le fait que c'est une évidence qu'il y a une intelligence providentielle à l'œuvre dans la nature, cette question-là et cet argument-là, il est toujours soutenu actuellement.
Alors, religion naturelle, comment est-ce qu'on définit ce qu'est une religion naturelle et quelle est la différence avec une religion dite non naturelle, révélée?
Justement, c'est l'idée qu'on peut accéder naturellement par nos simples connaissances, par notre rationalité, à l'évidence de la création, de la providence, de l'intervention de Dieu dans ce monde, sans avoir nécessairement à recourir à l'idée de révélation, à l'idée de texte sacré. Loin de les opposer, au contraire, c'est une confirmation de la révélation par la religion naturelle, par le fait que nous y avons accès par notre rationalité, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu.
Et pourquoi est-ce que Hume procède à une telle mise en scène pour exposer ses arguments à l'égard de la religion naturelle, à l'égard de laquelle il va être extrêmement sceptique, on s'en doute?
La mise en scène est assez classique, on retrouve le modèle cicéronien en fait, c'est-à-dire que le texte de Cicéron, de la nature des dieux, est un classique quand on parle de la religion naturelle, et cette mise en scène avec plusieurs personnages qui exposent leur point de vue, se contredisent. Cette mise en scène, elle est reprise à l'âge classique par bien des auteurs. Et juste avant Hume, nous avions par exemple Berkeley, dans les dialogues, dans le Sifron, qui mettait en scène lui aussi des personnages qui venaient à se contredire et à parler de religion, dans le but de défendre la religion cette fois-ci. On ne sait pas très bien quel est le but de Hume dans ce texte, car il ne s'incarne pas dans un des personnages, il n'est pas Philon le sceptique.
Ah bon ?
Autant le dire tout de suite.
C'est vrai ?
Non, car Hume se donne à lire à travers les différents personnages qu'il met en scène, et la conclusion finale de Philon est difficilement transposable à ce qu'on trouve dans les autres écrits de Hume. Donc il faut lire ce texte comme l'invite à le faire Hume dans l'introduction, à savoir, il ne s'agit pas d'une manière pédagogique d'imposer un point de vue à un lecteur qui se fait balader ou qui se fait entraîner dans les méandres d'un propos dont il verra l'éclaircissement final. Il s'agit précisément de donner au lecteur des arguments, des thèses et de le laisser faire son choix.
Pourquoi dans ce cas, si Hume lui-même ne s'exprime pas à travers ce texte, avoir fait le choix de ne pas le publier de son vivant?
C'est
ça, parce qu'il avait peur justement de s'exposer aux critiques de l'Église. Enfin,
Hume s'exprime, mais pas à travers un personnage, il s'exprime au travers des trois personnages. On retrouve des arguments humiens.
Alors peut-être présentez-nous ces trois personnages principaux.
Alors nous avons d'abord Cléante, le tenant d'un théisme expérimentaliste. Nous avons Déméa, le tenant de la tradition et d'un certain dogmatisme. Et Philon, le sceptique, qui lui n'a pas vraiment de thèse en propre, mais épouse d'un côté les thèses de l'un, épouse les thèses de l'autre pour au final les rejeter toutes deux.
Donc d'un côté, disons Déméa qui croit, disons celui qui va défendre la religion dite révélée, Cléante qui au contraire serait du côté, on va dire, des théistes, ceux qui pensent qu'on peut démontrer l'existence de Dieu à l'aide d'arguments rationalistes, et rationnels en tout cas, et Philon qui met en doute la position de l'un puis celle de l'autre, et vous dites que Hume serait d'accord ou exprimerait sa thèse à travers les trois personnages. Pourtant difficile de voir chez Hume des arguments en faveur de la religion révélée ou même du théisme.
Tout à fait, vous avez entièrement raison. Et c'est bien pour ça qu'il recule le moment où il publie son texte, puisque les conclusions auxquelles on arrive sont sulfureuses. La réputation de David Hume au 18e est déjà sulfureuse, je pense que vous l'avez rappelé durant cette semaine. C'est quelqu'un qui postule des chaires d'université, de morale et de psychologie, et qui se voit refuser l'accès à ces postes universitaires parce qu'on le considère comme un sceptique, c'est-à-dire pour l'époque un athée au final. Donc comment voulez-vous enseigner la moralité à des étudiants si vous passez pour un être immoral?
Et pourtant lui-même explique bien qu'il ne peut pas se définir comme étant athée, car dit-il, c'est faire preuve d'une autre forme de dogmatisme que de se qualifier comme d'athée. Ça veut dire je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Or la position sceptique est la sienne, ne lui permet pas d'affirmer l'inexistence de Dieu.
Tout à fait, il y a même un passage savoureux dont sa venue en France, puisqu'il vit en France dans les années 60. Il est venu plus jeune, évidemment, quand il écrit son propre traité de la nature humaine. Il passe beaucoup de temps en France, mais quand il revient dans les années 60, il rencontre le cercle de Dolbach, de Diderot, qui, eux, sont ouvertement matérialistes, athées, militants. Et certaines lettres rapportent qu'il aurait dit, devant le cercle de Dolbach, « Je n'ai jamais vu un athée de ma vie ». On lui a répondu, dans cette salle, nous sommes 18 et il y a au moins 15 athées, 3 sont encore en train de se décider. Donc pour lui, l'athéisme n'est pas une réalité immédiate dans le Royaume-Uni de cette époque-là. Et surtout, encore une fois, toute son œuvre met en évidence que qu'on soit théiste, déiste, athée, dans tous les cas, on est dans de la croyance, on n'est pas dans la démonstration d'un argument rationnel. Quand bien même vous défendriez le matérialisme, vous le défendez sur une base qui sera celle de la persuasion et pas de la conviction, puisqu'il n'y a pas de démonstration possible. Donc tout le monde est croyant au final.
Alors on va revenir sur la distinction entre déisme et théisme, entre croyance et persuasion, mais entrons dans le texte. Je vous propose qu'on aille directement à la deuxième partie pour entendre le débat entre Philon d'un côté et Cléante sur le dessein intelligent, dessein avec un E, D-E-2-S-E-I-N, qui serait, disons, démontrable pour Cléante, alors que pour Philon, il en va bien autrement. Écoutez.
En voyant une maison, Cléante, nous concluons avec la plus grande certitude qu'elle a un architecte ou un constructeur, parce que c'est précisément cette sorte d'effet que nous avons vu par expérience provenir de cette sorte de cause. Mais assurément, vous n'affirmerez pas que l'univers possède une telle ressemblance avec une maison que nous puissions, avec la même certitude, inférer une cause semblable, ni que l'analogie soit ici entière et parfaite. La dissemblance est si frappante que le plus à quoi vous puissiez ici prétendre, c'est une supposition, une conjecture, une présomption touchant une cause semblable. Et comment cette prétention sera accueillie dans le monde, je vous le laisse à considérer, Cléante.
Elle sera certainement fort mal accueillie. Mais est-ce une si mince ressemblance dans une maison et dans l'univers que l'entier ajustement des moyens aux fins, que l'économie des causes finales, que l'ordre, la proportion et l'arrangement de chaque partie? Les degrés d'une échelle sont manifestement agencés afin que les jambes humaines s'en puissent servir pour monter, et cette inférence est certaine et infaillible. Les jambes humaines, elles aussi, sont agencées pour marcher et pour monter. Et cette inférence, j'en conviens, n'est pas tout à fait aussi certaine, à cause de la dissemblance que vous remarquez. Mais mérite-t-elle pour cela le nom de simple présomption ou conjecture?
Mon Dieu, où sommes-nous? De zélés défenseurs de la religion conviennent que les preuves en faveur d'une divinité n'atteignent pas à l'évidence parfaite.
Celui qui se désespère, c'est Démea, hein, celui qui ne voit même pas comment on peut douter de, non seulement de l'existence de Dieu, mais de son influence sur la création, enfin, le monde dans lequel nous vivons. Voilà un des arguments qui est exposé très clairement. C'est ici une adaptation radiophonique réalisée par Georges Perrault en 1967, des dialogues sur la religion naturelle donc. D'un côté, on entendait donc Philon qui disait à Cléante qu'on ne pouvait pas postuler la similitude entre Dieu et l'intelligence humaine, et Cléante lui-même qui argue en faveur de cette analogie qui, selon lui, permet d'accéder à, disons, à l'existence de Dieu elle-même. Il accorde un tel pouvoir à la raison qu'il ne voit pas comment celui-ci pourrait être limité par Philon. Jean-Pierre Clément.
Tout à fait. Le cœur de l'argument, c'est l'analogie. Est-ce que l'intelligence que l'on voit dans le monde, puisqu'il y a de l'ordre, est-ce que cette intelligence, c'est nous qui la projetons? Autrement dit, nous découvrons notre manière de penser. Ou bien, en fait, cet ordre est lié à une intelligence qui est supérieure, Dieu, et que nous découvrons parce que nous sommes dans l'homologie, parce que nous sommes, encore une fois, la créature divine, et nous possédons nous aussi la rationalité. On part donc d'un fait, l'évidence, il y a de l'ordre dans la nature, les saisons se succèdent, nous avons des constellations qui reviennent de manière constante, etc. Donc l'ordre, c'est une évidence. C'est le sens de cet ordre qui est questionné dans ce texte. Est-ce qu'il renvoie à un horizon de transcendance divin, ou au contraire, il renvoie à une immanence qui est celle de l'homme et de sa projection, de sa propre raison, dans la nature? Si vous voulez, la question c'est celle du pourquoi des enfants. Les enfants ne cessent de vous demander pourquoi. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi tu fais ça? Et dans la structure même du pourquoi, on lit de la finalité. Pourquoi? Dans quel but? Et notre manière d'appréhender le monde est toujours finaliste. Si nous, nous faisons des choses dans un but, alors la nature fait elle aussi quelque chose dans un but très précis. Bon, c'était déjà le point que soulignaient les anciens, les antiques, Aristote, la nature ne fait rien en vain. Mais comme il n'était pas chrétien, il n'avait pas encore conçu, pensé et découvert que la finalité c'était un homme, une prédestination, une survie, en des termes chrétiens évidemment. Mais c'est bien cette question de la finalité qui est soulevée. Est-ce qu'elle est évidente? Est-ce qu'elle s'impose? Est-ce que la science moderne n'est pas en fait une confirmation? Une confirmation, est-ce que Newton finalement ne confirme pas cette idée déjà présente chez les philosophes antiques d'une finalité? Est-ce que la science newtonienne qui dévoile des lois, une structure rationnelle de l'univers, est-ce que ce n'est pas précisément là que l'évidence s'impose? Nous avons désormais, nous modernes, des arguments pour justifier le dessein, pour justifier l'intelligence qui préside à l'ordre du monde.
Oui, parce que ce qui pose problème à Hume d'un point de vue philosophique et même épistémologique, ce n'est pas le rôle de la raison dans la connaissance, ce n'est pas la causalité première qui constate qu'une cause va produire un effet, mais c'est bien la finalité, le finalisme. Et il montre ici dans ce texte qu'y compris Cléante, qui se veut porte-parole d'un certain courant rationaliste, n'échappe pas à cette finalité qui est une forme de... Enfin, ce finalisme qui est une forme de... quasiment de superstition pour Hume.
Tout à fait, c'est-à-dire que la critique dans le texte porte sur deux registres de la causalité. Le principe de raison suffisante et le principe de cause finale. Descartes, qui est le premier à penser le mécanisme et le fait que, en effet, on peut penser la nature finalement comme une horloge, un mécanisme dont Dieu a produit les éléments, instauré des lois, et finalement ça fonctionne tout seul, il n'intervient plus, la nature n'est pas surnaturelle justement, c'est un mécanisme qui opère à des lois et on peut découvrir ces lois. Sauf que Descartes, lui, excluait les causes finales en disant « bon, l'argumentation des causes finales m'intéresse pas, il s'agit de souligner les causes efficientes ». Alors que en Angleterre, par exemple, Boyle, lui, continue à souligner la nécessité de penser à travers les causes finales, car ce que lit Boyle, c'est justement l'émergence possible d'un matérialisme si on s'en tient à l'idée d'une cause nécessaire. Cette cause nécessaire, est-ce que c'est Dieu? Ou bien cette cause nécessaire, c'est la matière et ses propriétés qui, finalement, engendrent peut-être de l'esprit, de la rationalité, par ses propres lois. Donc, Boyle, au moment de sa mort, lègue de l'argent pour que on vienne lire des sermons et défendre l'idée d'un dessein intelligent, d'un Dieu qui intervient dans la nature, prend soin de nous. Et ces lectures sont toujours d'actualité. Hein. Ça a repris en 2004 à l'église Sainte-Marie à Londres. Donc on a encore cet argument selon lequel finalement la science progresse, mais ce qu'elle met en évidence, c'est bien un dessein divin. Quelqu'un comme Einstein, par exemple, avait cette formule célèbre « Dieu ne joue pas au dé ». Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard dans la nature, il n'y a que de la nécessité, et cette nécessité, elle renvoie à une intelligence créatrice.
Mais ce que montre le dialogue, finalement, à travers ces trois personnages, c'est que c'est la notion même de croyance qui est peut-être naturelle, inhérente à l'esprit humain.
Exactement. Nous sommes d'abord des êtres de croyance. Et finalement, nous développons de la religion. C'est une nécessité, peut-être pas éternel, peut-être qu'on peut ensuite s'en passer, mais c'est un mécanisme normal. Donc la critique des athées qui considèrent que tout cela est irrationnel, non naturel, ne porte pas. Parce qu'au contraire, dans l'histoire naturelle de la religion, un des textes précédents, Hume avait montré que c'est un mécanisme naturel que de produire de la croyance, d'être d'abord polythéiste et pas monothéiste. Hein, c'était une des grandes avancées des textes humiens. À l'époque, on pensait que le monothéisme avait dégénéré en polythéisme. Il restaure la chose, l'historicité, la genèse, en disant non, le polythéisme est premier. Et la religion naturelle, au final, n'est qu'une religion de philosophes. C'est ça qui est important.
Et ça reste une religion. C'est là où Hume est complètement novateur dans l'histoire de la philosophie. Parce que finalement, ce qu'il dit, d'autres ont pu le dire avant lui, mais surtout au cœur du siècle des Lumières, affirmer que la religion naturelle et même qu'une forme de philosophie reste d'essence religieuse parce que la croyance en est à la racine, c'est quelque chose de complètement subversif.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne publie pas son texte. Hein. C'est trop original pour l'époque, au sens où il renvoie chacun à sa propre croyance et où il souligne justement les limites de la rationalité humaine, ce qu'il avait déjà fait dans l'enquête sur l'entendement humain, mais dans tous ses autres textes. On ne peut pas prétendre démontrer des choses qui ne se donnent pas via l'expérience. Or, le théisme expérimental pense précisément que là, on a de la preuve, que si l'ordre, on l'expérimente au quotidien, alors ça nous renvoie à une divinité qui préside à cet ordre. Le but de Hume dans ce texte, c'est de casser ce mécanisme qui semble si naturel, le mécanisme de l'analogie. Nous expérimentons l'ordre, mais cet ordre-là, nous n'arrivons pas à lui conférer son véritable sens. Des sens, il pourrait y en avoir des milliers.
Y a-t-il aucun motif raisonnable pour conclure que les habitants d'autres planètes possèdent la pensée, de l'intelligence, de la raison ou quoi que ce soit de semblable à ces facultés telles qu'elles sont chez les hommes? Quand la nature a diversifié d'une façon si extrême son mode d'opération dans ce petit globe, pouvons-nous imaginer qu'elle se copie incessamment elle-même à travers un si immense univers? Et si la pensée, comme nous pouvons bien le supposer, est uniquement bornée à ce coin étroit et n'a même là qu'une sphère d'action fort limitée, quelle convenance peut-il y avoir à la désigner pour la cause originelle de toute chose? Les étroites vues d'un paysan qui fait de son économie domestique la règle propre à gouverner les royaumes sont un sophisme pardonnable en comparaison. La nature, à ce que nous voyons, même d'après notre expérience limitée, possède un nombre infini de ressorts et de principes qui se découvrent incessamment à chacun de ces changements de position et de situation. Et quels principes nouveaux et inconnus agiraient sur elle dans une situation aussi nouvelle et aussi inconnue que celle de la formation d'un univers ? Nous ne saurions, sans la plus extrême témérité, prétendre à le déterminer. Une très petite partie de ce grand système, durant un temps très court, se découvre très imparfaitement à nous. Irons-nous donc prononcer d'une façon décisive, touchant l'origine du tout ? Admirable conclusion.
À quoi faut-il croire quelque chose dans le monde? Qu'est-ce donc vous croyez?
Ce que je crois?
Oui.
Je crois que 2 et 2 sont 4, ce que la règle. Et que 4 et 4 sont 8.
Ah, la belle croyance. Et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est dans l'arithmétique. Avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Vous m'avez demandé qui a fait ces arbres-là? Ces rochers, cette terre, ce ciel qui est venu là-haut. Et si tout cela s'est bâti de lui-même, vous voilà, vous, la raison, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul?
Quand Sganarelle demande à Don Juan qui a fait ces arbres, qui a fait ces feuilles, qui vous a fait, vous êtes-vous fait tout seul, il ne fait pas autre chose que poser la question que Philon adresse à Cléante, à savoir comment peut-on passer des parties au tout? Comment peut-on, du constat, disons, de l'existence des choses, inférer l'existence d'un seul auteur qui serait l'origine absolue et le commencement premier de ce monde, Jean-Pierre Grimard?
Tout à fait, mais la question essentielle, c'est pourquoi est-ce qu'on privilégie une partie par rapport à une autre pour penser le tout? Pourquoi est-ce qu'on privilégie la raison au détriment peut-être d'autres principes, comme la végétation,
très fort, c'est vrai.
Comme la végétation ou la sexualité? Les anciens pensaient que le monde s'engendre par l'union d'éléments contraires. Donc ils avaient une vision génétique, le génos, la lignée, la reproduction. Des éléments contraires s'associent et donnent forme à quelque chose de neuf. Pourquoi est-ce que nous privilégions la raison au détriment peut-être même de la végétation? Peut-être que ce monde est se déploie comme une graine se déploie. Peut-être que la vie vient d'ailleurs, d'une comète. Hein. Il soumet cette hypothèse, David Hume, la vie voyagerait de comète en comète dans plusieurs mondes. Pourquoi nous privilégions la raison alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours rationnels? Nous sommes d'abord des êtres d'émotion, nous sommes d'abord des êtres de passion, nous sommes des êtres de croyance, et certains d'entre nous sont rationnels. tout le monde est rationnel, mais dans une échelle qui est plus ou moins étroite, plus ou moins quotidienne. Est-ce que nous sommes tous des philosophes qui passons notre temps à chercher des causes ? Non, pas vraiment. Alors pourquoi est-ce que nous projetons dans la nature ce qui est spécifique non seulement à l'humanité, pas au reste de la nature, mais à un petit segment de l'humanité, des philosophes qui ont du temps et la curiosité pour se poser ce genre de questions ?
Ça, c'est Philon qui le fait remarquer à Cléante.
Tout à fait.
Et donc, dans quel sens dites-vous que Hume n'est pas Philon ? Car il est difficile de voir la différence entre la position de Philon et celle de Hume.
La conclusion de Philon, c'est que le scepticisme n'est qu'un argument critique, à savoir que c'est être véritablement chrétien que d'être sceptique. Autrement dit, la conclusion, c'est le scepticisme est le premier pas vers un véritable christianisme. Donc, en ce sens-là, ça ne recoupe pas la position de Hume, puisque l'ordre qui émerge de l'analyse, c'est tout sauf un ordre chrétien.
Oui, mais on pourrait voir de la part de Hume un argument ultime et imparable adressé à l'égard des théistes qui sont ses adversaires véritables bien plus que les chrétiens. Il va défendre le christianisme non pas au nom du christianisme, mais contre les théistes et contre les rationalistes qui sont ses contemporains.
Mais ils ne sont pas ses ennemis, parce que l'ennemi pour Hume, et il y revient toujours, c'est la superstition, c'est l'enthousiasme, ce sont les fanatiques. Ce que dit Hume, c'est que finalement les théistes expérimentaux, ce sont des philosophes et ils n'ont peu d'impact dans la société, ils ne sont pas très dangereux. Ce qui est dangereux, c'est au contraire ceux qui font fond sur la révélation et l'idée que le texte est démontré, le texte s'impose de lui-même, il n'y a qu'une seule religion ou qu'une seule interprétation et qui sont prêts par exemple à commettre des meurtres pour ça ou bien à pousser les gouvernements à sélectionner une religion parmi d'autres, etc. Donc l'idée d'intolérance, la bigoterie, les bigots, c'est le cœur de l'attaque de Hume. Donc au final, le théisme expérimentaliste, si c'est son objet dans ce texte-là, c'est parce que c'est une culture des élites de son époque. Il ne faut pas oublier qu'on est au XVIIIe, que c'est l'émergence par exemple de la franc-maçonnerie et de l'idée d'un dieu bienveillant qui ordonne tout cela. Donc on reconfigure d'autres manières d'être chrétienne à partir d'une vision élitiste de ce qu'est la religion. Et Hume leur répond, quand bien même vous interpréteriez la religion en sens-là, de manière éclairée, de manière bienveillante, de manière ouverte et de manière quand même assurée, vous pensez avoir raison, au final, il n'y a pas d'assurance prouvée par la rationalité. Ça reste encore un choix qui n'est pas lié à la rationalité, mais à votre sensibilité. En final, Hume met en évidence ou met au cœur de ses personnages des tempéraments. C'est pas juste des arguments, c'est une sensibilité par rapport au réel. Qu'est-ce qu'on perçoit ? Comment est-ce qu'on perçoit ? Comment est-ce qu'on va adopter ce type d'argumentaire ? C'est avant tout ça. Déméa, c'est celui qui considère que c'est dangereux de défendre la religion par la rationalité expérimentale, parce que au final, ça ne prouve rien. Il vaut mieux s'en tenir à une forme de scepticisme fidéiste, qui était en quelque sorte la position que Pascal, en France, pouvait adopter contre Descartes. Donc, puisqu'on ne peut pas prouver par des arguments rationnels la présence d'un dieu bienveillant, organisateur, mieux vaut s'en tenir à un culte pratique qui, lui, fait office de base la plus large possible. Nous serons tous d'accord sur le fait qu'il y a un Dieu, qu'il veille sur nous et que nous sommes des croyants, peu importe la manière dont on produit un argumentaire pour défendre cette religion-là. Ce qui prime, c'est la pratique, pas les arguments. Or, la critique de Hume, c'est que le théisme expérimentaliste, ça n'est pas d'abord une pratique, c'est la pratique d'une minorité, la pratique d'une élite, la pratique de scientifiques, la pratique de philosophes.
Mais en s'attaquant à eux, il permet quand même de mettre au jour ce procédé qui est absolument naturel, semble-t-il, à l'homme, enfin en tout cas qui fait partie de la nature humaine, qui est d'être porté à croire, c'est-à-dire de glisser constamment du subjectif à l'objectif. Et il montre bien que ce processus-là, qui est celui de la croyance, est à l'œuvre autant dans la religion que dans la connaissance, que dans la philosophie. C'est en ça qu'il apporte quelque chose de nouveau dans ce texte.
Et c'est en ça que ce texte est dans la continuité de toute son œuvre. Il n'a de cesse de dénoncer l'illusion du naturalisme. Nous passons notre temps à projeter des qualités qui nous sont propres dans la nature. Nous pensons que la causalité est universelle et nécessaire, et pourtant, elle est subjective. Donc nous passons notre temps à projeter des attentes, à projeter des manières de faire, des manières de percevoir. Le but de la philosophie humienne, c'est de mettre en évidence ces fictions que nous ne cessons de créer au quotidien.
I know my Jesus, yes, my Jesus cares. Yes, he sees and he cares. Well, does my Jesus care? Oh, when I lay down, well, I know my Jesus, Lord, he cares. Well,
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h32 minutes et c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à David Hume. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur de philosophie Jean-Pierre Grima, qui enseigne la philosophie à l'École internationale Provence-Alpes Côte d'Azur et qui vient vous parler aujourd'hui des dialogues sur la religion naturelle de David Hume. Donc. Regardez tout autour de vous cet univers. Quelle immense profusion d'êtres animés et organisés, sensibles et actifs. Vous admirez cette variété et cette fécondité prodigieuse. Mais examinez d'un peu plus près ces existences vivantes, les seules qui soient dignes d'être considérées. Comme elles sont hostiles et funestes les unes aux autres. Comme elles sont toutes incapables de suffire à leur propre bonheur. Comme elles sont méprisables ou odieuses aux spectateurs. Le tout n'éveille rien d'autre que l'idée d'une nature aveugle, pénétrée d'un grand principe vivifiant et déversant de son sein, sans discernement ni soin maternel, ses enfants mal faits et malvenus. Nous sommes dans la 11e partie des dialogues ici, Jean-Pierre Grima, c'est Philon qui prononce cette diatribe quasiment naturaliste. On y entend des accents qui seraient quasiment pré-darwiniens. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but défini, et rien ne nous permet de dire que la nature est là pour le plus grand accommodement, le plus grand bonheur de l'homme.
Tout à fait. Quand même, on pourrait penser à un Dieu créateur qui nous dit que ce Dieu veille sur nous, qui nous dit que ce Dieu veut notre bonheur. On pourrait tout aussi bien soulever de multiples hypothèses, comme le manichéisme. Il y a une lutte éternelle entre le bien et le mal, etc. Donc, l'argument s'est déplacé. Les premières parties font leur argumentaire sur l'idée de cosmogénèse. Comment est-ce qu'on explique l'ordre du monde? Et là, on souligne plutôt la question de la moralité. Est-ce que cet ordre est un ordre moral? Est-ce que Dieu veut notre bien? Est-ce que Dieu veut notre bonheur? Or, le constat de Philon, c'est que nous sommes des êtres malheureux. Nous sommes des êtres malheureux. C'est assez étrange peut-être comme point de vue, mais il nous dit que la somme des plaisirs n'égale pas la souffrance sur cette planète, par exemple. On retrouve cet argument à l'époque, chez Maupertuis, par exemple, l'idée que quand on additionne tout ça, au final, nous sommes perdants. La somme des souffrances est beaucoup plus intense. Les moments de bonheur, ils glissent, ils passent, et une souffrance, on s'y attache, on regrette, on ne cesse d'être dévoré par le remords, par exemple. On peut passer sa vie à déprimer, à rester figé dans un instant duquel on ne peut plus se dépêtrer. Donc nous sommes des êtres qui ne sont pas voués au bonheur. Comment est-ce qu'on peut concilier cette idée-là avec l'idée d'un Dieu bienveillant qui veille sur nous et qui, finalement, veut que nous réalisions notre destin, à savoir être heureux et préparer le bonheur à venir.
Donc là, on est passé de l'argument, disons, rationaliste, du dessein inhérent à la nature et au monde dans lequel nous vivons, un argument qui serait davantage moral.
Tout à fait.
Et est-ce qu'on peut dire que l'adversaire ici, au moment où Hume écrit ce texte, ce serait, disons, le narrateur de la profession de foi du vicaire savoyard de Rousseau?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas tirer de l'ordre spontané, de cette évidence-là, qui fait, qui est encore une fois acceptée par tous ses concitoyens, toute son époque, ne remet pas en cause cette évidence-là. Il y a un ordre, il est naturel, il est rationnel. Comment est-ce qu'on rend compatible cet ordre naturel et rationnel avec l'idée d'une moralité, avec l'idée d'une providence et d'un Dieu bienveillant? Nous n'avons pas les arguments pour démontrer la chose. Nous pouvons opposer bien d'autres arguments. Il suffit de contempler la nature et la nature nous dit qu'elle se fiche complètement des individus, à savoir que ce qui l'intéresse, c'est la survie des espèces. Si on garde l'hypothèse finaliste, à savoir que la nature se soucie de quelque chose, qu'elle a un but, alors le but qui se donne à lire, ça n'est pas le but rationnel ou le but moral d'une humanité qui progresse. Non, c'est une nature aveugle qui produit. Elle produit des espèces et elle se fiche des individus. Nous sommes là pour survivre.
Écoutons Filon expliquer ce que vous venez de dire en ces termes à Cléante.
Vous assignez, Cléante, et je crois à bon droit, un but et une intention à la nature. Mais quel est, je vous en supplie, l'objet de cet artifice et de ce mécanisme délicat qu'elle a mis en œuvre chez tous les animaux? Uniquement la préservation des individus et la propagation de l'espèce. Il semble suffire à son but qu'une telle rangée, simplement, se maintienne dans l'univers sans souci ni préoccupation aucune du bonheur des membres qui la composent. Nulle ressource dans ce but. Nul mécanisme n'ayant en vue que de donner du plaisir ou du bien-être. Nul fond de joie et de contentement pur. Nulle satisfaction sans quelque besoin ou quelque nécessité qui l'accompagne. Du moins, les rares phénomènes de cette nature le cèdent-ils à des phénomènes opposés d'importance encore plus grande? Notre sens de la musique, de l'harmonie, et à vrai dire de tout genre de beauté, nous procure une satisfaction sans être absolument nécessaire à la préservation et à la propagation de l'espèce. Mais quelles peines torturantes, d'autre part, ne proviennent-elles pas de la goutte, de la gravelle, des migraines, des maux de dents, des rhumatismes, où l'atteinte subie par le mécanisme animal est tantôt petite, tantôt incurable? Gaieté, rire, jeu, ébat semblent des satisfactions gratuites qui ne tendent à rien autre chose. Spleen, mélancolie, mécontentement, superstition sont des peines de même nature. Comment donc la divine bienveillance se déploie-t-elle selon le sens où vous autres anthropomorphistes l'entendez?
L'argument est imparable, Jean-Pierre Grima. Comment Cléante se défend-il?
J'aimerais revenir sur le terme anthropomorphiste.
Oui, justement, c'est l'accusation qui lui est faite.
En effet, quand on défend l'analogie, quand on fonde son argumentaire sur l'idée d'analogie, à savoir, puisque le monde est une machine et que nous sommes, nous aussi, des êtres intelligents qui faisons des petites machines à notre échelle, il y a bien l'évidence qui s'impose que ce monde est rationnellement ordonné. Sauf que, là encore, c'est privilégier une des parties pour expliquer le tout. Pourquoi privilégier le principe spiritualiste plutôt que le principe matérialiste? C'est ça toute la question, finalement, que pose Hume. Pourquoi trancher alors que une démarche honnête, une démarche proprement philosophique et se basant sur l'expérience, ne parvient pas à trancher la question? Que l'on soit matérialiste ou que l'on soit spiritualiste, nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des savants capables de démontrer la thèse que nous épousons. Donc pour revenir à l'argumentaire de Cléante, encore une fois, il s'agit de défendre l'idée de moralité, l'idée que, quand bien même les arguments seraient pertinents du côté de Filon, il vaut mieux une mauvaise religion que pas de religion du tout. Je pense qu'il faudrait insister sur cette idée-là qui est inacceptable pour Filon. Autrement dit, peu importe l'attaque, peu importe que Filon produise des argumentaires et des critiques qui portent, l'essentiel c'est de sauver la religion. Car si on renonce à la religion, c'est toute la société qui s'effondre. Or là, il me semble que Hume relie en quelque sorte Pierre Bell, à savoir qu'on peut très bien penser une société d'athées vertueux. On n'a pas besoin de la religion pour fonder la sociabilité.
Certes, mais la religion découle naturellement de la tendance à la croyance que nous avons tous en nous. Et de même que Hume montrait qu'il n'y a pas de nécessité, mais qu'il faut parler de probabilité plus que de nécessité. De même, donc, il insiste sur notre propension à la croyance. Est-ce qu'on ne peut pas aussi affirmer, ce qui rendrait peut-être ce qui est plus indulgent à l'égard de personnes comme Cléante et comme Déméa, que nous avons aussi une tendance, disons, à la religion, c'est-à-dire à créer une forme de communauté à partir de cet instinct de croyance que nous avons, que nous tendons, que nous sommes superstitieux, que nous croyons au miracle, et que du coup nous ne pouvons pas, rien ne sert de réfréner ce qui nous constitue naturellement.
Au contraire, il faut réfréner. C'est-à-dire que c'est pour
il faut aller contre la nature humaine.
Non, pas contre la nature humaine, c'est juste une autre tendance de la nature humaine. Hume est sceptique et naturaliste, c'est-à-dire que le scepticisme, c'est une des tendances de la rationalité. Donc il faut cultiver certaines tendances plutôt que d'autres. Nous pourrions être polythéistes, nous pourrions être monothéistes, nous pourrions être superstitieux. Ils sont des tendances naturelles, mais lesquelles sont les plus rationnelles? C'est ça la question que pose Hume. Lesquelles sont les plus rationnelles et quels sont les arguments pour démontrer la rationalité de ce choix-là? Non, il ne faut pas continuer à cultiver la superstition et l'enthousiasme parce que ce sont des fièvres qui emportent le peuple et qui sont la cause de bien des crimes et de bien des injustices.
Mais la raison est tout autant fiévreuse pour Hume, justement.
Justement. Il s'agit justement de mettre à distance ces fausses évidences, hein, ces fondations rationalistes qui ne sont en fait que des fictions. C'est pour ça qu'il faut cultiver le scepticisme, le sceptique est engagé dans l'action, donc il ne peut pas passer son temps à douter. Mais le sceptique, c'est celui qui se souvient de son doute. C'est celui qui, quand il agit, se souvient que le fondement de sa démarche n'est pas intrinsèquement rationnel. Donc il y a une nécessité de faire des choix dans nos tendances. Il faut cultiver la philosophie.
Et c'est pour ça que Hume n'est pas, il lui-même se présente comme un sceptique mitigé ou modéré. C'est-à-dire que chez Hume, finalement, ce n'est jamais le scepticisme qui gagne. Quand il pointe un problème, une aporie, il va toujours essayer d'en proposer une forme de solution. Il y a une forme de positivisme non dogmatique qui caractérise l'écriture de Hume.
Parce que ce qui intéresse Hume, c'est d'abord la vie pratique. C'est d'abord le common sense, la common life. Comment est-ce qu'on fait une communauté tous ensemble? Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on peut se respecter, fonder un droit, faire émerger de la justice, alors que nous avons tous des tendances qui sont différentes, des tempéraments qui sont différents, des choix religieux, des choix politiques qui, par nature, sont divers. Donc comment est-ce qu'on fait une communauté à partir d'une base morale? On pourrait très bien dire qu'à l'époque, le choix, c'est justement soit le déisme, soit le théisme, l'idée qu'il est évident qu'il y a un Dieu. Finalement, la manière dont vous le priez importe moins que le fait que vous le priez.
Juste sur la distinction déisme et théisme, comment vous les définissez?
Le déisme, à l'époque, c'est l'idée qu'un Dieu créateur est pensable, possible, mais qu'il n'intervient pas dans sa création. Il se retire du monde. Donc il n'y a pas de providence, il n'y a pas de moralité intrinsèque. Le théisme soutient au contraire que non seulement Dieu est créateur, mais qu'en plus, il veille sur nous. Il faut l'implorer, il peut...
Donc davantage d'anthropomorphisme?
Oui, en quelque sorte. Puisqu'il y a l'idée d'espoir, l'idée de crainte, l'idée qu'il y aura des récompenses, qu'il y aura des châtiments. Or, on sait que Hume écrit un texte qu'il ne publie pas, d'ailleurs, au moment où il le rédige, un texte sur l'immortalité de l'âme, où il nous dit qu'il est peu probable que l'âme soit immortelle, donc il est peu probable qu'il y ait récompense et châtiment. Si cette probabilité est peu élevée, encore une fois, comment est-ce qu'on fait une société? Comment est-ce qu'on reste moral? Quel type de société on propose? Les francs-maçons proposent une société plus ouverte, une société chrétienne ou une société croyante. Chacun prie un Dieu dans son église, que l'on soit calviniste, qu'on soit catholique, finalement importe moins que le fait que nous sommes croyants. C'était une des exigences pour devenir franc-maçon à cette époque-là. Mais même ça, Hume nous dit, mais quand bien même on serait une élite progressiste, ouverte, tolérante, l'argument sur lequel on fonde cette tolérance n'est pas rationnel. Il n'y a pas de preuve de l'existence de ce Dieu dont vous faites le socle de votre société à venir.
Ce qui est une accusation à la fois contre la religion et contre la raison, parce que ça limite considérablement le domaine de validité de la raison.
Tout à fait, la raison ne peut pas tout. La raison ne peut pas tout, et en même temps, elle est suffisamment forte pour établir la science. Hein. N'oublions pas que Hume est sceptique, mais newtonien. Il est évident que la science progresse, il est évident que la société progresse, il est évident que nous vivons mieux. Nous vivons mieux qu'à l'époque d'Aristote. Nous sommes dans le confort, nous sommes dans les droits, des droits de l'homme. Hein, la Glorious Revolution du 17e en Angleterre. Donc nous progressons, c'est une évidence. La question, c'est comment est-ce qu'on peut encore progresser plus et comment est-ce qu'on peut stabiliser cette progression. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de finalité qu'on n'en fait que dévoiler au final, alors on l'invente, on la construit. Mais c'est instable. C'est instable. Tout peut très bien s'écrouler du jour au lendemain. Donc comment est-ce qu'on maintient un ordre social justement en évitant la folie, en évitant les fièvres superstitieuses, en évitant le trop-plein de certitudes.
Ce qui implique du coup de la part de Hume d'esquisser une forme là de solution ou de croyance en un progrès. Ça va, c'est-à-dire qu'il est contre l'idée du dessein et de finalité, mais s'il parle de progrès moral, c'est donc bien qu'il pense qu'il y a une évolution vers du mieux.
Oui, mais elle n'est pas inhérente à la nature humaine. Autrement dit, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Effectivement, les fièvres peuvent reprendre, les dissensions, la guerre civile est à nos portes. Donc c'est quelqu'un de très prudent, hein, c'est un sceptique modéré, à tous les sens du terme, même en termes politiques. C'est bien ce que lui reproche d'ailleurs à ses amis français, athées, qui eux sont ouvertement matérialistes, ouvertement militants, qui d'Alembert n'a de cesse de lui demander une histoire de l'Église critique que Hume se refuse à écrire et à publier en disant « J'ai déjà suffisamment de problèmes chez moi avec mes propres écrits et je ne vais pas en plus me lancer dans cette entreprise critique envers les prêtres, envers l'Église. » De toute façon, l'essentiel de ce qu'il fait, c'est de proposer les bons arguments pour cesser le combat. Pour
justement... Et à quoi ressemble du coup la société dans laquelle, la société qui permettrait le mieux à l'homme, enfin à l'homme de vivre le mieux possible, il faudrait sans doute ménager une place quand même à la religion, à la superstition.
Oui, mais la religion et la superstition, ça n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que pour Hume, la superstition, c'est une conséquence fâcheuse de la religion. On est dans une détérioration de la religion. La superstition, c'est l'irrationalité la plus totale, alors que la religion naturelle, quand bien même elle n'est pas fondée, elle a des actions rationalistes, elle a des actions de tolérance. Donc c'est pas du tout sur le même plan. D'ailleurs, on pourrait se demander dans le texte pourquoi est-ce que Hume introduit une critique de la superstition.
Des miracles aussi, elle essaie sur les miracles qui avaient pour le coup été lus de son vivant.
Oui, fortement critiqué. Mais dans ce dernier texte, dans les dialogues, pourquoi est-ce qu'il revient à la charge sur le rôle des prêtres, le rôle politique qu'ils ont eu, la superstition, la religion populaire, alors que ça n'est pas le sujet justement de l'œuvre. Le sujet de l'œuvre, c'est la religion rationnelle. Donc on voit bien que ce qui pose problème pour lui, c'est justement la religion du plus grand nombre, pas la religion de cette petite élite scientifique qui découvre les lois de l'univers et pense que c'est Dieu qui se cache derrière. Ce qui pose problème, c'est la situation actuelle, la situation politique, et le fait que là encore, tout peut s'embraser à tout moment.
Dès lors qu'on commence à croire au miracle.
Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Et oui, nous ne sommes pas entièrement rationnels, nous pouvons aussi croire au miracle et ça est du bon, comme vous êtes en train de l'entendre, vous écoutez France Culture, Nouveau Chemin de la Connaissance. Il est 10h50, un grand merci à vous Jean-Pierre Grima d'être venu nous
merci
parler
à vous.
Des dialogues sur la religion naturelle de David Hume. Moi j'ai entre les mains une très belle édition chez Pauvert avec une préface de Clément Rosset, bon lapsus. que je vous recommande si le livre est encore disponible. Sinon, on le trouve également chez Vrin avec une traduction des commentaires de Michel Malherbe, qui était mon invité avant-hier. Pour l'heure, vous écoutez donc France Culture et il est 10h51, c'est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Bosnay-Savoie pour ses 2 minutes papillon.
Toi et moi les courtiers, apportons à la banque du vrai cash, la commission, espèce d'enfoiré.
C'est fantastique monsieur, rien qu'à vous écouter j'en ai l'eau à la bouche.
C'est normal, il y a 2 clés pour réussir dans le milieu boursier. Avant toute chose... Il faut rester relax.
D'accord.
La totalité des forces qui ont édifié ce qui caractérise en propre l'ensemble notre ordre de vie présent ne peut reposer que sur une profonde perversion de toutes les forces essentielles de l'esprit, sur un démentiel renversement de tout ordre censé des valeurs. Cette phrase écrite par Max Scheler et que l'on trouve en tout début de son essai intitulé « Le bourgeois » semble parfaitement se retrouver dans la figure de tous nos jeunes loups de Wall Street, dont la seule motivation à agir ne repose que sur l'accumulation de richesses. Cette phrase ne résonne donc pas aujourd'hui comme quelque chose de vraiment original. Pourtant, Max Scheler, ce philosophe allemand nourri à l'esprit de Husserl, vivant et écrivant au début du XXe siècle, familier des écrits de Max Weber et Marx, fait un peu figure à part. D'abord parce que, comme on le découvre dans ses 3 essais, à la différence de Marx, il n'a jamais vu le travail comme un moyen de libération, mais plutôt comme ce qui absorbe toute la substance de l'homme. Et puis parce que, à la différence de Max Weber, Max Scheler, lui, soutient cette thèse fondamentale, l'esprit du capitalisme n'est pas tant le résultat du système capitaliste que la source de ce système. Max Scheler, c'est donc le penseur d'une anthropologie critique, plus que d'une politique anticapitaliste. Ce qui l'intéresse, c'est la transformation de l'homme, et non par le capitalisme mais par le travail qui le mène vers ce capitalisme. Se découvre ainsi sous sa plume la genèse de ce qu'il appelle ce nouvel éthos, celui du bourgeois qui donne aux valeurs utilitaires la priorité sur les valeurs vitales. Ce nouvel éthos qu'on appelle aujourd'hui l'homo economico, qui n'est rien d'autre que l'annihilation de la nature même de l'homme, l'aliène ou en absorbe donc la substance.
Merci Géraldine. Alors le titre du livre...
Donc c'est, il y a 3 essais, donc ça s'appelle 3 essais sur l'esprit du capitalisme, sauvé par le travail, point d'interrogation. C'est aux éditions Cécile Defoy et puis il y a une très belle, très, très, très intéressante préface de Patrick Lang qui nous présente Max Scheler.
Merci Géraldine. Et merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais nous serons sauvés par le travail, ça c'est sûr. On se retrouve demain pour le chemin du vendredi, demain ce sera le 3e volet d'Écrire le monde moderne, la série de journées spéciales que propose France Culture depuis quelques temps déjà. Demain le thème de la journée sera Syrie, la guerre qui change le monde, et mon invité sera le philosophe Marc Crépon qui viendra se demander s'il y a vraiment ce qu'on appelle un choc des civilisations. Rendez-vous demain à 10h. Donc d'ici là, 2 choses à faire, chers auditeurs. La première, c'est de lire le numéro de Philosophie Magazine du mois de mars, toujours disponible en kiosque. Peut-on choisir ses désirs ? Philosophie Magazine, dont nous sommes partenaires. Et la seconde, très importante, c'est de vous inscrire pour aller assister au forum spécial de la journée spéciale Histoire, l'année vue par l'histoire. Vous étiez très nombreux à venir fin janvier à l'année vue par la philosophie. Eh bien, rendez-vous avec l'histoire. Ce sera samedi 12 mars de 10h à 18h au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Mais l'inscription est obligatoire sur franceculture.fr et puis avoir des aléas d'inscription, vous êtes nombreux à vous plaindre de ne pas obtenir de réponse. Persistez, tous vos noms en tout cas sont enregistrés, ça vous permettra d'assister à toute la journée de conférence.